au réseau Cogeco, vous écoutez Entre nous avec Sylvain Ménard.
Nous sommes de retour avec Marilyn Castonguay. Marilyn Castonguay, bon, évidemment, c'est comme ça que je t'aime. Émission de télé, il y a aussi l'émission, des émissions pour enfants. Alix, c'est des merveilleux, il y a le théâtre, on en a parlé. Il y avait un autre projet de théâtre qui s'en venait.
Oui, une conjuration.
À l'espace libre. Avec les deux piliers de l'espace libre, d'ailleurs.
Les deux piliers de l'espace libre.
Alix Martin et Daniel Brière.
Exactement.
Et pandémie oblige.
Ah, puis on était justement en train de répéter puis placer ça, puis on a été obligés d'arrêter.
Ouais.
C'était un univers vraiment très poétique. C'est super beau. Ben, je disais parce que la pièce va être reprise en 2021, octobre.
À l'espace libre.
Oui. Bon. En 2021, oui. Fait qu'on va pouvoir voir cette pièce-là puis travailler dessus quand même.
Mais là, tout le travail qui avait été fait, à un moment donné, on vous dit...
C'est terminé.
Point de suspension ou point d'orgue ou pas un point final. Mais c'est ça, là, on met un terme à tout ça. Vous autres, quand vous avancez dans le travail puis qu'on vient vous dire à peu près aux trois quarts du dit travail, OK, on met ça sur la glace, le sentiment qui t'a habité, toi, c'est...
Ben c'est comme si au début, on n'y croit pas vraiment. On est dans le travail, mm-hmm. On dit, OK, ben on va arrêter une semaine, deux semaines. Ou, ça se peut pas. Pour arrêter une production télévisuelle,
ouais.
Il faut vraiment que ce soit terrible. On dirait que... Non, mais c'est vrai.
Non,
il
y a tellement
arrêter,
de moyens qui sont mis là-dessus, puis les horaires, les agendas.
C'est ça. Fait que on dirait que ça se pouvait comme pas que ça arrête ou ça va arrêter momentanément, on va revenir. Ouais. Puis, fait qu'il y a des projets comme ça qu'on attendait... on allait une semaine à la fois. OK, ben là, on arrête deux semaines. On reprend, on vous donne des horaires pour dans deux semaines ou dans un mois. OK, là, ça marche pas. Là, on peut pas reprendre, mais...
Donc, tu reprends la feuille, tu la mets dans le bas de la pile.
Ben, c'est ça. On dirait qu'on était toujours comme stand-by pour recommencer, tu sais.
Oui.
Puis être à jour dans... Est-ce que j'apprends mon texte? Je continue-tu à apprendre les scènes ou pas pour arriver en répète prête? Mais là, finalement... Mais au théâtre, ça s'est décidé quand même vite parce qu'à un moment donné, les saisons...
Ouais.
On peut pas éterniser ça, pardon.
Mm-hmm.
C'est longtemps, fait que ça s'est quand même fait vite de OK, là on pourra pas le reprendre de toute façon parce que ça va être ce spectacle là qui va prendre la place. Donc on va le reporter.
Mais d'arrêter de travailler pour une comédienne comme ça là sans trop d'avertissement, OK, sur le coup on se dit ça va pas être long.
C'est ça.
Mais vient le moment où on dit toujours que c'est un muscle, la mémoire, ces choses-là. Et quand, là, la période d'interruption se prolonge.
T'as peur.
c'est ça la question que je me posais.
Ouais.
Des comédiennes, des comédiens, vous faites quoi pour vous rassurer?
Ben, en fait, moi, j'avais besoin de repos.
Ah oui?
Parce que je sortais du solo.
Okay.
J'avais eu toute cet été-là de « C'est comme ça que je t'aime » avec Alix et les Merveilleux en même temps. Après ça, je suis tombée tout de suite dans les pratiques du solo, l'apprentissage de texte du solo, 63 pages de texte. Je suis tombée en représentation, 2 mois de représentation, 6-7 semaines avec des spectacles qu'on a ajoutés parce qu'on remplissait nos salles, fait qu'on était très, très chanceux. Fait que quand c'est arrivé, après ça, j'ai repris tout de suite Alix et les Merveilleux. Mais quand ça a arrêté, on dirait que ça a fait du bien.
C'était pas si grave que ça.
C'était pas si grave. J'ai fait, je vais en profiter le temps que j'ai pour me reposer.
Est-ce que tu as pu en profiter?
J'en ai profité.
Oui.
Oui, je me suis vraiment reposée. Oui. Le premier mois, j'ai presque rien fait, j'avoue. J'allais prendre des marches, puis j'essayais de garder mes textes pas loin parce que je savais pas quand est-ce que ça allait recommencer.
Mm-hmm.
Mais ça m'a fait un bien fou. Même, je sais que c'est un drame ce qu'on vit.
Ah oui,
on souhaite pas ça. Mais j'avoue que pour le premier mois, ça a été quand même...
C'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça.
Ben, ça a bien tombé pour ma tête.
Oui, mais la tête de Marilyn Castonguay, quand tu es revenue sur les plateaux, parce que là, cet été, les grosses machines sont reparties.
Oui.
Il y a eu des tournages.
Oui.
La première journée que tu débarques sur un plateau après avoir vécu le retrait comme ça pendant un bout de temps...
J'avais l'impression que je n'étais plus capable de jouer.
Ah, à ce point-là?
Oui. Je me disais, mon Dieu, je ne suis pas capable de jouer. La tête, ça a été quand même bien.
C'était dans le cadre de quel projet?
Alix et les Merveilleux.
OK.
Oui, parce que le théâtre, là, c'est reporté. Puis, j'avais l'impression que je savais plus comment jouer rôle.
Est-ce que tous les autres avaient à peu près la même impression?
Oui, il y en a plus que d'autres, là, mettons. Là.
Ouais.
Mais le temps de retomber dans mes souliers, ça m'a pris un bon 2 semaines là, de faire comme, mais voyons, je suis pas capable de jouer. Je ne suis pas capable de... Il a fallu que je réécoute des épisodes.
Ah oui?
Ah oui, à ce point-là, d'Alex et les Merveilleux, pour faire comme, OK, c'est comme ça, OK, c'est, OK, non, non, c'est bon, ça va revenir, ça va revenir. Puis après ça, là, c'est correct, là, ça va. Là. Je faisais mon travail quand même, mais dans moi, j'avais l'impression de plus avoir de nuances, de pas être capable de retrouver cette aisance-là.
Oui. À la radio, ça se voit moins, mais moi, quand je te vois t'exprimer, t'as une très belle gestuelle.
Oui.
Mais faut dire qu'à la base, Marilyn Castonguay, elle était aussi danseuse. Est-ce que la danseuse existe toujours en toi?
J'ai voulu danser. Oui, j'ai beaucoup dansé. J'ai voulu très fort être danseuse professionnelle. Oui. Puis ça me faisait beaucoup de bien. Mais là, on dirait qu'avec après l'école nationale, je m'entraînais beaucoup moins. J'ai été chanceuse parce que j'ai travaillé très vite.
Mm-hmm.
Puis être danseur, c'est un mode de vie. Hein. C'est pas.
Non, puis c'est un sport extrême aussi. Là.
C'est un sport extrême, c'est un mode de vie, c'est un entraînement quotidien.
Ça fait mal.
Des fois, ça fait mal, mais c'est vraiment comme quelque chose qu'il faut que tu entretiennes. Puis avec le travail d'actrice, mais ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Juste la présence sur scène après avoir dansé puis de m'être entraînée à ce point-là. Oui. Ça a tout changé dans ma vie d'actrice, puis de fille qui fait du théâtre, tu sais. Même à la télé.
Oui.
D'avoir conscience de ton corps dans l'espace. Je trouve qu'on devrait tout faire ça.
Pour apprendre à courir avec une carabine qui
est dans
les textes.
C'est ça. Puis de juste comme à la présence de tu sais, tu tournes dans l'espace. Juste être là, juste exister dans un espace aussi grand qu'une scène de théâtre. Ça prend vraiment une conscience corporelle, tu sais, pour être bien aussi, puis pour être bien dans toi, puis être capable d'habiter ça. Puis la danse m'a beaucoup amené ça.
Pour le moment, tu te débrouilles bien sur plusieurs aspects, la télé, le théâtre, bon, t'es encore capable de composer avec tout ça, mais tantôt, on parlait des horaires, des agendas.
Oui.
Et ça, c'est ce qui vient régir le travail de l'artiste.
Oui.
Et là, le petit côté bohème, à un moment donné, de l'artiste, qui apprend ses textes et qui va faire des déclamations à un moment donné. Ça, c'est une autre affaire. Vous devez être très organisé, très structuré.
Ben oui, très structuré. Puis moi, je suis quand même quelqu'un de très organisé dans la vie. J'aime pas ça laisser les choses un peu au hasard. J'aime ça être préparée quand je travaille. Je suis exigeante envers moi-même. Je suis exigeante... Ben non, je suis très, très bienveillante envers les autres. J'excuse beaucoup de choses, mais...
Toi, est-ce que tu t'en pardonnes?
Pas mal moins que je pardonne aux autres. Mm-hmm. Vraiment. Mais j'aime ça quand on est préparé, puis j'aime ça quand la personne en avant de moi est préparée aussi. Parce que je trouve qu'on se lève, on est là pour ça.
Oui.
Puis on peut aller beaucoup plus loin dans notre jeu si on est préparé. C'est quelqu'un qui arrive, qui ne sait pas son texte, qui l'apprend un peu ou qui est tout le temps en train de... Ben, je trouve qu'on ne peut rien faire. T'sais.
Parce qu'on a l'impression parfois qu'à la télé, avec le peu de temps qui vous est accordé, pour monter une scène, puis jouer, puis...
Oui, le temps n'est pas le même à la télé qu'au théâtre, mettons.
Le temps est compté.
Oui. Ben il faut travailler en amont. Tu sais, comme une série comme C'est comme ça que je t'aime, je savais l'été qui s'en venait, je savais que j'avais presque 50 jours de tournage, qu'il y avait des scènes colossales là-dedans, que j'allais tourner Alex et les Merveilleux en même temps. Donc, quand j'ai eu le temps en amont, dans ma préparation, ben j'ai passé toutes les scènes, j'ai sorti celles qui avaient... pas mal plus de textes, puis j'ai commencé à les apprendre beaucoup plus tôt. Comme ça, je savais que rendu là, ça allait être le temps que j'allais avoir pour le faire la veille, bien, tu sais, ça allait être plus facile.
Ouais. Mais aussi pour gérer l'impondérable, c'est comme ça que je t'aime, vous avez beaucoup de scènes à l'extérieur.
Oui.
Si, à un moment donné, la météo s'en mêle,
ben c'est ça.
Vous êtes un petit peu à la remorque de tout ça. Ça vient compliquer les affaires.
Puis on a de moins en moins de temps pour faire nos scènes aussi.
Mm-hmm.
Fait que si on n'est pas préparé assez, ben c'est nous qui en payons le prix parce qu'on n'a pas 14 fois pour le faire.
Oui.
Fait qu'il faut aussi aider la production à ce que ça aille le plus vite possible.
Mais dans une émission comme ça où il faut que ça livre, il y a des scènes enfilées, puis est-ce qu'il y a un travail de mise en scène qui se fait, de mise en place, ou c'est les comédiens, comédiennes qui se chargent un petit peu de tout ça en tenant compte des paramètres de la caméra?
Non, on a le réalisateur qui est là. Puis,
mais est-ce qu'il est aussi partie prenante qu'un metteur en scène au théâtre, par exemple?
Ah oui, surtout oui. Comme une série comme C'est comme ça que je t'aime, Jean-François Rivard, il y a une vision très claire, tu sais, il y a une vision artistique puis vraiment au service du propos.
Okay. C'est
comment raconter ça, qu'est-ce qu'il va faire, où je vais mettre ma caméra pour que ce soit le plus clair possible dans ce que j'ai à raconter. Donc pour lui, la mise en scène est extrêmement importante, tu sais, de placer la scène en conséquence puis nous placer dans l'espace, puis placer sa caméra pour mieux pour raconter l'histoire le mieux possible, tu sais.
Mais dans un contexte comme celui-là, vous autres, les comédiennes, les comédiens, est-ce que vos suggestions sont les bienvenues ou...
Bien sûr.
Veux pas, vous êtes obligé de vous retenir un petit peu?
Ben ça dépend, tu sais, faut aussi...
On tient compte de la réalité.
Tient compte de la réalité. Il y a des fois, on a plus de temps.
Mm-hmm.
Il y a des fois où...
Mais votre rapport est bienvenu.
Notre rapport est plus que bienvenu.
Ouais.
Si on propose quelque chose, puis... On dirait que je le vois autrement, puis tu sais, si c'est la cacophonie puis c'est le bordel, tu sais, je vais m'abstenir puis je vais essayer de le faire passer puis ça va être correct, puis je commencerai pas à en mettre pour qu'on cherche là ou faire douter les gens. Mais si je suis convaincue que c'est comme ah ben je vais le dire d'emblée, parce que ma job c'est ça, mon travail c'est ça, tu sais, puis il faut que je sois capable de continuer de faire mon travail malgré le temps qu'on a. Puis je pense aussi qu'il faut, t'sais, on a besoin de placer les scènes, on a besoin de se questionner, on a besoin de remettre en question les choses aussi. Puis si on peut plus faire ça, ben ça vaut plus la peine de faire notre métier. T'sais, moi, je suis engagée comme actrice pour questionner les choses, puis amener des idées, puis jouer mon rôle le mieux possible. Si on me donne plus le temps de faire ça, ben pourquoi je le fais? Puis pourquoi on fait ça? T'sais, si on raconte pas l'histoire comme il faut, ou si je suis pas capable d'amener, mettons, ma Huguette dans ce contexte-là, le plus vrai possible, le plus juste possible, ben, pourquoi je fais ça? T'sais, vous me payez pour faire ça, puis je ne suis pas capable de le faire, ben, payez-moi pas. T'sais.
Marilyn Castonguay, est-ce qu'il y a des gens qui t'appellent Huguette sur les rues?
C'est arrivé quelques fois.
Parce que tu ne ressembles pas nécessairement à la Huguette.
Non, Lille, pas du tout.
Mais est-ce qu'il doit y avoir quelque chose d'un petit peu étonnant là-dedans quand le personnage finit par...
Oui.
On finit par être dépossédé de son personnage.
Puis surtout que moi, je suis un peu à l'écart des réseaux sociaux, puis je suis un peu à l'écart de la vie parallèle.
T'intéresse pas?
Bah, je suis pas très ordinateur, je suis pas très technologique. Je sais pas si c'est un manque de courage d'affronter les opinions des autres.
Ou un manque d'intérêt,
ouais. Ouais, des fois, je me dis, bah, tu sais, les amis, j'en ai beaucoup dans la vie. Je suis très bien entourée. J'ai une vie personnelle assez riche, fait que. Je ressens pas. Je respecte totalement. Je sais c'est quoi l'utilité de ça. Mm-hmm. Je respecte totalement ceux qui sont là-dessus, mais je ressens pas le besoin de m'exposer là-dessus, puis de montrer ma vie à ceux que je connais pas tant. Fait que c'est pour ça que quand j'arrive dans la rue, pour revenir à la question, quand j'arrive dans la rue, quelqu'un m'aborde en "Es-tu Huguette de Lille?" Ben ça me fait comme un peu, ça me fait pas un peu bizarre, tu sais, de que ça vienne à moi.
Ouais, mais est-ce que c'est quelque chose qui te prend toujours de court, ou est-ce que c'est désagréable ou?
Ben c'est pas désagréable. Non. Je suis contente parce que je me dis les gens ont écouté ce qu'on a fait, ont été comme spectateurs de la série, fait que je suis très contente.
Puis on revient sur le fait que cette émission-là, C'est comme ça que je t'aime, était suivie par des centaines de milliers de personnes. Donc ce que l'on qualifie de champ gauche, ben le champ gauche commence à être large pas mal.
C'est super, vraiment.
Les gens sont capables d'en prendre.
Les gens sont capables d'en prendre, ben oui. Puis c'est pas à nous de décider qui est capable d'en prendre ou pas. On propose, ben en tout cas, j'ai été.
Ouais.
j'ai dit mon opinion, ouvertement. Mais moi, je dis, on propose ce qu'on a à proposer, puis après ça, les gens décident ce qu'ils prennent ou pas, puis on est toujours surpris de ce que les gens peuvent... C'est ça, je pense que c'est... C'est d'infantiliser les gens que de décider pour eux, tu sais. Puis qu'une série comme ça, oui, c'est champ gauche, mais c'est quand même relativement facile à comprendre.
Oh oui.
C'est quand même relativement facile à digérer comme propos puis comme niveau d'humour.
Mais c'est surtout très divertissant en temps de pandémie, en tout cas.
Absolument.
Ça, je peux te le jurer.
Tout le monde me dit ça, vous êtes tombé à point.
Oh.
On a pu le savourer, puis on a pu l'écouter plusieurs fois même. Il y en a des gens qui m'ont dit qu'ils l'ont écouté deux fois, puis...
Oui, parce qu'il y a toujours, quelque chose dans le deuxième puis dans le troisième plan arrière. Puis c'est ça aussi, l'écriture de François Létourneau puis de Rivard.
Exact.
C'est qu'il y a toujours quelque chose. Peu importe. Moi, je découvrais des choses sur Huguette de Lille dans le dernier épisode. C'est ça aussi de l'écriture intelligente.
Hein. Oui, exact.
Mais pour revenir sur le fait que souvent, on assume beaucoup, puis on dit, ah oh, ouais, mais ça, le monde n'aimeront pas ça.
Oui.
Mais le monde... Le monde aime ça.
Les gens aiment ça, oui.
Aiment le risque aussi.
Puis pourquoi ils aimeront pas ça? C'est ça.
À partir de quel...
À partir de où ça, on pense qu'on va perdre les gens? T'sais, sur quel niveau on pense qu'ils aimeront pas ça puis qu'ils comprendront pas?
Mm-hmm.
Qui on est pour parler pour 7 millions de personnes? T'sais?
Mm-hmm.
Je sais pas. J'ai de la misère avec le fait qu'on...
Mais là, en tout cas, il y en avait... En moyenne, 800 000 qui écoutaient cette émission-là.
Oui, à la télé, à part ceux qui... Ben, puis on compte là-dedans les enregistrements. À part ceux qui l'ont écouté sur Tout.tv avant, tu sais, au mois de mars, quand c'est sorti.
C'est vrai, c'est pas comptabilisé. Ça.
C'est pas comptabilisé dans le 800-900 000 à chaque semaine.
Ça commence à en faire du monde.
Ben oui, moi, je suis très heureuse de ça.
Et parallèlement à ça, au théâtre, tu remplissais tes salles aussi.
Oui, ça, j'ai dit, parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que, justement, je me dis, les gens, est-ce qu'ils vont venir voir quelqu'un... C'est Marilyn Castonguay. Qui est Marilyn Castonguay? Quand après, t'as Guylaine Tremblay qui va venir faire un solo aussi, tu sais.
Mm-hmm.
Puis on sait que, tu sais, des billets de théâtre, c'est pas donné. C'est un investissement à venir au théâtre.
Oh oui.
Puis,
c'est une sortie.
C'est une sortie. Puis, tu sais, il y a des gens qui, justement, ils peuvent pas nécessairement se permettre tous les shows de la saison. Fait qu'entre Guylaine Tremblay puis Marilyn Castonguay, je me disais, hey, mon Dieu, le combat est perdu d'avance, mais. Mais en même temps, non, les gens à la licorne, ils sont fidèles, ils viennent, puis ils sont venus pour le propos aussi. Puis
ouais.
Le bouche à oreille a fait son effet, je pense. Puis j'ai eu des salles complètement pleines à tous les soirs. Puis ça fait tellement la différence quand tu joues un solo seul.
Ouais.
Un solo seul, évidemment que je suis seul, mais...
Oui, seul, mais en même temps, quand je regarde le travail que Denis Bernard a dû faire sur ce spectacle-là, c'est un gros travail d'équipe pour un spectacle solo, si on peut s'exprimer ainsi. Là.
Je me suis jamais sentie seule dans le travail, tu sais. Il y avait Marie-Hélène qui était l'assistante, puis Denis Bernard qui a fait un travail extraordinaire, puis on était vraiment une équipe là-dedans. Puis Denis, il m'a vraiment amenée dans des zones où je pensais pas qu'on allait aller dans ce spectacle-là. Parce que le niveau d'humour, puis ouais. le niveau de jeu est comment je pourrais... Et haut, là, quand même.
Et surtout que nous, comme spectateurs, on le voit pas venir.
Ben non, tu sais, c'est vraiment un show d'humour où je suis très excentrique, extravertie, puis c'est gros, là, c'est gras, puis j'étais comme, mais mon Dieu, comment...
À un moment donné,
comment...
il y a comme une éclipse.
C'est ça, comment on va faire pour basculer ça, puis comment je peux faire pour jouer comme ça, puis ce propos-là, en tout cas, ça m'a vraiment demandé beaucoup d'abandon. Et de ouais. confiance en Denis, ce que j'ai jamais regretté.
Non.
Ouais.
C'est quand même spécial, tout seul sur scène. Je reviens là-dessus, on a commencé l'entretien là-dessus tantôt. Mais c'est quand même spécial, 63 pages de texte, toute seule.
Oui, puis...
Pas personne pour souffler. Est-ce que tu as eu un blanc de mémoire? Est-ce que ça t'est arrivé?
Ça m'est arrivé...
Tes repères sont où?
Je pense que ça m'est arrivé d'un moment donné, mais je retombe vite sur mes pattes parce que je sais où je m'en vais. Tu sais, je sais vraiment où je m'en vais. Fait que ça, j'ai pas eu peur. Puis je voulais avoir quelqu'un à la première avec qui suit le texte en arrière, juste pour me sécuriser.
Ouais.
Puis à un moment donné, à la semaine d'entrée en salle, j'ai vu à quel point j'étais bien, que je savais mon propos. J'ai fait non, j'ai pas besoin.
Parce qu'il fut un temps dans les vieilles années du théâtre où il y avait quelqu'un dans la petite conque en avant.
Oui.
Des souffleurs ou des souffleuses.
Oui. Puis même savoir que quelqu'un suit,
ouais.
On dirait que ça te sécurise, puis ça, tu peux t'abandonner plus, tu sais.
Mm-hmm.
Puis je m'étais fait des petites mises en scène pour si jamais j'ai un blanc, comment je vais faire pour aller voir la personne en arrière. Mais finalement, ça s'est super bien passé. Vraiment. Puis après ça, tu sais, des mois après... En pandémie, justement, où tu te berces sur ton balcon en pensant à ce que tu as fait dans le temps,
mm-hmm.
savoir si tu vas le refaire
dans ton ancienne vie.
Dans l'ancienne vie, tu sais.
D'il y a quelques mois déjà.
C'est ça, puis j'étais comme, je sais pas si je serais capable de le refaire.
Ouais.
J'ai dit, mon Dieu, j'étais capable de faire ça. Tu sais, après coup, quand tu sors de toi, je dis, je pense pas que je sois capable de le refaire.
Puis là, tu fais des rêves a posteriori, là, tu rêves au moment où t'oublies ton texte, ces choses-là, alors que tout ceci est déjà fait depuis un bout de temps.
Ouais.
Quand même spécial.
Puis de l'énergie que ça prend pour faire ça. Puis, tu sais, j'en ressortis un petit peu. Tu sais, t'as le temps de te déposer, fait qu'on dirait que la pression tombe, fait que tu te sens un peu fatigué, puis tu te revois sur scène toute seule pendant 2 heures, 5 jours semaine, des fois 6 jours semaine. Puis t'es comme, mon Dieu, est-ce que je vais être encore capable de faire ça? Je sais pas, sûrement.
On le présume. Marilyn Castonguay, t'as fait beaucoup de choses depuis la sortie de l'École nationale. Qu'est-ce qui te reste à faire? Parce qu'il t'en reste beaucoup à faire. Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a des projets là, que t'aimerais développer?
Moi, je pense que tout reste à faire, on dirait.
Ah ouais?
Ben oui, il y a plein de choses que j'ai pas jouées au théâtre. Il y a plein de scènes que j'ai pas foulées non plus, tu sais.
Mm-hmm.
J'ai jamais joué chez Duceppe, j'ai jamais joué au TNM, j'ai jamais joué... j'ai joué à Denise Pelletier, mais trois représentations seulement, tu sais.
Mais jouer à Denise Pelletier, ça c'est devant le public étudiant?
Le public étudiant, oui.
Ça aussi, c'est une grande école?
C'est une grande école, parce que ça réagit beaucoup.
Oui.
À des places, des fois, que tu ne penses pas, puis ça parle en même temps. Puis
pour le meilleur et pour le pire, des fois.
Pour le meilleur et pour le pire, oui.
Il y avait Guinadon, qui était en charge du théâtre Denise Pelletier à l'époque, qui était un formidable animateur avant le spectacle, qui faisait une espèce d'explication du contexte, tout ça. Puis là, il disait, OK, maintenant, place au théâtre. Puis là, bon, tout le monde t'a préparé. Toi, Guinadon, tu l'as eu comme prof.
Mais oui, puis avant de parler de Guinadon, je dois dire que les étudiants, faut pas oublier quand tu joues devant eux qu'ils apprennent à venir au théâtre aussi. Tu sais, c'est des générations d'écran aussi, tu sais.
Et de plus en plus.
De plus en plus, fait que c'est un apprentissage de venir dans une salle où tu penses qu'on n'entend pas, tu penses que ça dérangera pas. Tu sais, c'est quand même quelque chose d'être attentif pendant 2 heures avec des vrais gens devant toi, puis... Quel comportement adopter dans une salle de théâtre sont en apprentissage
de
ça.
C'est vrai, c'est une éducation à faire.
Exactement. Fait que des fois, on en paye le prix. Puis comme Guillaume Cyr, je pense qu'il a fait une sortie après sa pièce chez Duceppe, puis qu'il a très bien fait parce que, justement...
Des souris et des hommes.
Oui, exact. Puis c'est une éducation. Puis il ne faut pas laisser passer des comportements qui sont totalement irrespectueux et inadéquats. Puis il faut se permettre de le dire après parce qu'ils sont en apprentissage de venir au théâtre. Il y a des gens que... Si l'école les amène pas, ils viendront jamais. T'sais.
En quelque part, c'est une fonction de mentor.
Absolument.
Mais je voulais que tu me parles de Guinadon.
Oui,
je sais que c'est quelqu'un qui t'a touché.
Vraiment.
Qui t'a influencé.
Oui, vraiment. Guy a une façon de voir le métier. Puis c'est un homme avec tellement de culture. Puis il nous enseignait ce qu'on devait jouer, mais toute la vie autour, toute l'époque autour. Puis Guy a vécu, tu sais.
Oui.
C'est un homme qui a du vécu. C'est un homme qui a vécu des situations difficiles comme des belles situations. Puis moi, c'est un réconfort, cet homme-là. Il y a toujours le bon mot. Puis que ce soit pour la vie ou que ce soit pour le métier. Il y a toujours des... C'est pour ça que je me permets de... Ben, en fait, on se voit pas. Tu sais, on se voit pas dans la vie parce qu'on a chacun nos vies, chacun nos affaires. Mais à chaque fois qu'il arrive, on dirait que je me permets de m'ouvrir à lui. Puis il y a toujours le mot juste pour me réconforter dans ce que je pense, réconforter dans l'idée que j'ai où tu sais, on a toujours peur de pas travailler, on a toujours peur que le contrat ce soit le dernier, de quand on a un moment d'accalmie, de mon Dieu, est-ce que ça va revenir? Et si ça revenait jamais, parce qu'on sait jamais quand ça va tomber.
Est-ce que mon téléphone fonctionne encore? Qu'est-ce qui se passe?
Tu sais, fait que.
C'est toi qui marche pas. Hein?
On est-tu tanné de me voir? Mm-hmm. On est-tu tanné? Est-ce que là je m'expose? Puis Guy a toujours l'expérience parle avec Guinadon, puis il y a toujours le mot juste pour me rendre bien dans où est-ce que je suis rendue, puis d'embrasser la situation. Tu travailles pas, ben prends ça comme ça, prends ça comme une façon de travailler la femme puis l'humain. Observe les gens, tu sais, lis des livres. Fait qu'on dirait que ça m'apaise, puis c'est vraiment un acteur extraordinaire qui dure dans le temps aussi. Puis qui amène une rigueur et une énergie au travail rare.
Il dure dans le temps, puis j'ai l'impression qu'il a beaucoup d'influence et qu'un jour, Marilyn Castonguay va faire exactement la même chose.
Penses-tu?
Pour le nouveau ou la nouvelle qui va débarquer dans le coin, pourquoi pas? Tu le sais que c'est bon.
Pourquoi
tu sais que ça fait
pas?
Du bien.
Oui, oui, oui. Mm. En toute humilité, parce que...
La bonté, ça se transmet. Merci beaucoup.
Merci, mon Dieu, c'est bien dit pour la fin.
Ben
merci
oui.
Infiniment, c'était super.
Ça a des belles conclusions ici.
Oui.
Je vais te proposer de musique en partant. Daniel Bélanger, s'il y en a un qui est bon pour nous envoyer des images, il a fait un album instrumental cette année.
J'ai écouté que j'ai.
Traveling?
Oui.
Ah oui,
le
ben,
dernier.
Bon, ben là, on va écouter la pièce Onde sensible s'abstenir. Ça m'a fait penser à toi, cette tête-là, de Daniel Bélanger. Merci, Marilyn Castonguay.
Merci beaucoup, Sylvain.